Bien, merci à tous d'être là pour cette nouvelle table ronde autour des frontières entre réel et imaginaire. Donc ce matin, on a déjà parlé des limites de l'imagination. Alors on va revenir un peu plus dans son lien avec le monde réel. Alors quand on parle de science-fiction, on est un peu des deux côtés, mais encore faudrait-il définir quelle est la part de réel, quelle est la part d'imaginaire. On va essayer d'explorer un peu ces territoires. Alors, pour en parler avec nous, on a donc Igor Bogdanov, qui est auteur d'essais scientifiques. Donc, je pense que ce n'est pas nécessaire de présenter plus. Et on a quatre écrivains de science-fiction, avec chacun son style, avec chacun sa relation à la science plus ou moins dure, à une relation au réel différent. Donc on a Larry Niven, Michel Jury, Serge Lehmann et Gérard Klein. Donc je vais commencer par laisser la parole un peu aux uns et aux autres pour nous donner leurs sentiments sur qu'est-ce que le réel, qu'est-ce que l'imaginaire, est-ce qu'il y a une vraie différence, est-ce qu'on arrive à les définir simplement. Je vais peut-être commencer par donner la parole à Larry Niven.
J'ai passé ma vie en quête de réalité. J'ai passé ma vie à fantasmer également, mais c'est une manière de rechercher la réalité, je crois. On pratique la rêverie pour justement faire ressortir la réalité de la vie. Le fantasme, c'est un outil que le cerveau utilise pour essayer de comprendre à quoi ressemble réellement le monde.
Merci. Michel, vous voulez...
Plus tard.
Et ensuite, on passera en dernier peut-être la parole aux plus scientifiques. Donc,
Bien, je pense que si on cherche à opposer le réel et l'imaginaire, on risque de se heurter à un mur. Peut-être ce mur sera-t-il réfléchissant, on le verra tout à l'heure. Je crois qu'entre ces deux instances réelles et imaginaires, il faut introduire la réalité. Alors très brièvement, le réel est pour moi quelque chose d'inaccessible. Et c'est quelque chose contre quoi on se cogne éventuellement et ça peut faire très mal. La réalité... c'est un ensemble de fictions, y compris la fiction scientifique, qui sont des représentations du monde. En fait, il faudrait parler de réalité au pluriel. Quant à l'imaginaire, c'est tout ce qui surgit du travail de notre esprit. Bon, on aura l'occasion d'y revenir.
Serge, oui. Ah, c'est pas toujours évident, oui. Problème de savoir quel micro est branché sur la réalité.
Celui-là l'est. Je serais un peu sur, prévisiblement sur la position de Gérard, mais c'est pas délibéré. Non, c'est simplement que des choses qui il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années, ou il y a 10 ans, me semblaient parfaitement claires, en particulier cette distinction entre réel et fantasme ou réalité imaginaire. D'abord, il y aurait un usage du vocabulaire à définir. Voilà, faire une distinction entre réel et réalité, c'est déjà choisir d'affecter aux mots des contenus, une signification. Pour Gérard, par exemple, le réel, c'est ce qui n'est pas accessible par définition. C'est le caractère profond du réel. Et la réalité serait une sorte d'échelle intermédiaire de l'expérience. Moi, je dirais simplement que plus ça va, mais c'est mon évolution personnelle avant tout, plus la distinction me paraît effectivement extrêmement compliquée à établir de manière claire, comme si ça allait de soi, etc. Il y a quand même on est maintenant au 21e siècle, mais le 20e siècle a été le théâtre de quelques grandes révolutions scientifiques, dont l'une, celle de la physique quantique, a consisté à dire en gros, la réalité n'est pas un problème scientifique. La réalité, c'est il y a un seuil épistémologique dans ce qu'on peut connaître par la méthode scientifique, par l'expérience, et puis pour se prononcer sur ce qu'est vraiment la réalité d'un point de vue scientifique, c'est extrêmement compliqué, d'un point de vue théorique, ou le réel. Donc la très brève conclusion provisoire de cette introduction, ce serait que il faut être extrêmement prudent en fait en tentant d'établir une ligne de partage. Vraisemblablement, c'est très poreux.
Et on va passer la parole à Igor. Donc, d'un point de vue des objets scientifiques qu'on peut étudier, est-ce que vous ressentez une frontière ou une ressemblance ou des liens entre réel et imaginaire? Comment vous les définiriez?
Mais moi, je les définirais exactement comme Gérard. Au fond, revenons à une définition qui a été donnée par Richard Feynman. Feynman était un physicien qui s'intéressait évidemment, comme tous les physiciens, à la réalité. Et il essayait de chercher ce qu'il appelait lui-même le fond rocheux enfin, de la réalité. Et il a dit finalement, bon, la conclusion, c'est que la réalité, c'est tout ce que je peux observer. Donc, de là émerge une notion qui est bien connue par les physiciens et par les scientifiques, qui est celle de réalité observable. Mais, alors là-dessus, évidemment, Gérard sera tout à fait d'accord avec moi pour affirmer une chose, puisqu'il dit lui-même que la réalité n'est pas accessible. On peut... Le réel n'est pas accessible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fond, ce qu'on va saisir à travers l'observation, c'est donc un objet observable, mais que cet objet observable n'est pas le réel. Le réel est en dessous encore, il est ailleurs. Et ce que nous bricolons à travers des observations, c'est-à-dire en fait les illusions qui émergent de l'observation, ne sont pas l'objet lui-même. Et donc, en effet, là je rejoins ce que disait Gérard tout à l'heure, le réel profond, est inaccessible. Et de ce point de vue-là, il est assez illusoire aussi d'opposer l'imaginaire au réel, parce que les frontières sont incroyablement floues entre l'un et l'autre.
Oui.
Si, en voici puis un son, merci. Je dirais que l'imaginaire que je n'avais pas abordé tout à l'heure, il est du côté du désir. Alors, en ce qui concerne les êtres humains au moins, peut-être pas seulement les humains, il est du côté du désir. Alors, il y a le réel auquel on se heurte, et ça peut faire très mal, ou bien c'est au scientifique ce qui volontiers dit non quand il lui pose une question. Et puis, il y a le désir. Et entre les deux, il y a cet immense espace de représentation très variée, très nombreuse, très différente, pratiquement différentes pour chacun d'entre nous, sauf dans l'espace commun de la science, entre le désir donc et le réel, il y a les réalités.
Donc il existe quand même un passage, pas du réel, du coup on va peut-être déplacer un peu le débat, on ne va pas parler du passage du réel à l'imaginaire, mais plutôt de la réalité à l'imaginaire. Comment oui. On passe de l'un à l'autre? Bon, cette fois-ci, on va nous dire par le réel. Donc, comment vous définiriez le passage de... Puisque vous utilisez aussi bien le réel que l'imaginaire pour créer des histoires, pour raconter, même raconter le monde, que ce soit en tant que scientifique, pour expliquer des phénomènes, ou que ce soit pour raconter des histoires, on va passer de l'un à l'autre. Alors, quelle est votre propre relation à ces deux concepts?
Moi, j'aurais tendance à répondre là, encore une fois, en m'inspirant de ce qu'a dit un très très grand physicien qui est mort il y a 2 ans seulement. Il avait 98 ans, sur ses 99 ans, c'est John Wheeler. John Wheeler est donc l'auteur d'une théorie très robuste sur les trous noirs, mais il a réfléchi toute sa vie à la réalité, lui aussi. Et il a dit quelque chose d'extraordinairement intéressant. Il a dit: au début de mon existence et de ma vie de chercheur, de physicien, j'ai pensé que tout était matière et que donc on pouvait interpréter le monde à travers les représentations issues de la matière, c'est-à-dire au fond une table est une table et elle m'apparaît sous la forme d'un amas matériel, d'atomes, etc. Ensuite, dit-il, j'ai quitté cette idée-là et je me suis dit qu'en dessous de la matière il y avait autre chose, et cette autre chose c'était des champs, c'est-à-dire ce qu'on appelle des champs d'interaction. Donc j'ai cru pendant très longtemps que tout pouvait s'expliquer à travers les champs et que tout était champ. Et puis finalement, aujourd'hui, je me rends compte, ça c'était vers les 10 dernières années de sa vie, je me rends compte qu'en dessous des champs, il y a encore autre chose et que cette autre chose, c'est de l'information. Donc c'est ça qui est extraordinairement intéressant. Il y a 3 mondes. Il y a un monde de matière, le monde des chaises, des tables, des voitures, des chiens et des chats. En dessous, il y a un monde qui est fait de champs, c'est-à-dire c'est le monde de l'énergie, ce sont des interactions, c'est déjà beaucoup moins saisissable. Et puis en dessous de ça, disait John Wheeler, il a même une expression extraordinairement intéressante en anglais qui se dit « it from bit », c'est-à-dire cela découle de l'information, « it from bit ». toute la réalité ultime peut se résoudre en termes d'information. Alors maintenant, évidemment, la grande question est de savoir de quoi est faite cette information-là. Mais ça veut dire que si tout est information, le monde dans lequel nous vivons est extraordinairement différent de sa réalité ultime. C'est ça que ça veut dire. Et on peut méditer là-dessus. Peut-être que Gérard a quelque chose à ajouter là-dessus.
On va peut-être laisser la parole aussi à Larry Niven sur votre relation, le passage du réel à l'imaginaire aussi par rapport à ce que vous venez d'entendre ou dans pour écrire des livres, des histoires.
Cela fait 72 ans que je regarde la réalité changer autour de moi. Comment est-ce que j'utilise cela pour écrire des livres? J'ai de l'inspiration, mais je creuse également dans les sciences. Un petit Larsen, pardon. Ah, pardon, je crois qu'il y a une petite interférence. Bref, j'écris de la science-fiction en l'opposant à la fantasy. Pour moi, la fantasy, c'est plus de l'amusement. Moi, la science-fiction, c'est vraiment plus du sérieux. Et je regarde la réalité changer autour de moi de temps à autre. Et j'ai appris, les planètes que j'avais apprises à l'école n'étaient plus les mêmes. Pluton n'est plus une planète, Mercure tourne en fait, et ça on ne croyait pas avant. De temps à autre, je commence à écrire de la fantasy alors que ce que je veux écrire c'est de la science-fiction. Alors comment utiliser ces rapports entre le réel et l'imaginaire? Moi, je n'ai jamais voulu passer mon temps à la tête dans les étoiles quand j'étais en cours de maths, mais c'était comme ça que ça me venait. Et la réalité, la fantaisie, moi je ne les oppose pas. J'ai jamais pensé en termes d'opposition. Tout commence par une rêverie, encore une fois. Je pense que la machine à vapeur n'est pas née sans imagination. Je pense qu'il n'y a pas d'ordinateur, il n'y a pas de fusée spatiale sans imagination, sans rêverie. Là, dans la réalité, moi, quand j'étais petit, il n'y avait pas d'ordinateur. Ils sont arrivés, ils sont nés de nulle part. Et les ordinateurs, maintenant, sont petits comme la main, comme le doigt. Et nous, à l'époque, je me souviens, on pensait, enfin, les scientifiques pensaient à des ordinateurs qui seraient énormes, qui seraient la taille de planètes. Et moi, je faisais remarquer justement à un collègue que s'il fallait, construire des machines, enfin des ordinateurs qui étaient énormes, cela ce serait extrêmement lent. Donc voilà, il y avait tout un débat là-dessus. Mais c'était de la rêverie.
Vous voulez répondre, reprendre la suite sur l'appréhension du réel et sur l'utilisation d'imagination pour...
Oui, alors je crois qu'en ce qui concerne la littérature de science-fiction plus précisément, elle part très délibérément, très consciemment d'un désir. Le désir d'atteindre d'autres mondes, le désir d'atteindre l'avenir, au-delà du temps qui est normalement dévolu à nos existences, de découvrir d'autres sociétés, voire de voyager dans le temps. Enfin, il y a tous ces désirs qui sont très spécifiques et sont des désirs qui ont été largement constitués parce que la science nous offre de possibilités techniques et aussi des possibilités de rêve. Alors, la science-fiction s'établit à partir de ces désirs en direction des possibilités fantasmées dans un domaine très précis, plus ou moins proche, plus ou moins éloigné des sciences, la possibilité donc de les réaliser.
Serge, pour compléter, donc, si j'ai bien compris, si vous avez...
Non, ça dépend, non, parce que là, on peut être... Mais ce n'est pas une opposition, d'ailleurs, mais c'est un... C'est plutôt une autre vue, enfin, ou la vue du même objet sur un autre point de vue. Historiquement, la science-fiction s'est effectivement constituée de cette manière, c'est-à-dire que dans la science en cours de constitution, sous sa forme moderne, dans la deuxième partie du XIXe siècle, qui est le moment historique où les grands ancêtres de la science-fiction apparaissent, que ce soit Jules Verne, J.H. Rony, H.G. Wells, Conan Doyle, etc. La science a ce potentiel-là, en particulier à cause de sa nouveauté. On voit apparaître, par exemple, quand on feuillette les revues scientifiques de la fin du 19e, on est frappé par la beauté et l'impact graphique des premières photos au microscope, des premières photos astronomiques. On comprend très bien comment la rêverie se déclenche à partir de ça. Quand on voit dans les premières histoires astronomiques de Camille Flammarion un dessin ou une vue d'artiste qui représente le lever des anneaux de Saturne sur une des lunes de Saturne, on est complètement ébahi par la beauté des dessins et immédiatement le premier réflexe serait de dire « Ah, ce serait formidable d'y être ». Alors de cette rêverie-là, l'idée de construire une histoire qui s'y passe réellement, il n'y a qu'un pas, qui est franchi peu à peu par cette littérature qu'on appelle la science-fiction. Donc le rapport originel entre, disons, imaginaire et réel, du point de vue de la SF, il se situe là. Mais la science-fiction est un domaine qui s'est incroyablement élargi au XXe siècle, qui a fait une très large part, au-delà de son équation de base, son équation originelle, au fantastique, à une forme de merveilleux moderne qu'on voit dans le Twilight Zone, par exemple. Et elle a été très accueillante, y compris à tous les marginaux littéraires. Et tout ça aussi, c'est la science-fiction, parce que l'opération chimiquement pure de départ que décrit Gérard, elle a été impactée par cette capacité à absorber des influences qui venaient de toutes parts, y compris de domaines qui n'étaient pas spécifiquement rationnels ni même liés aux sciences. Donc au final, quand on prend cette littérature dans son ensemble, ce qui a été publié sous l'étiquette SF au XXe siècle, c'est très difficile de dire qu'elle se passe ou qu'elle implique un rapport type entre rêverie et réel, entre imaginaire et réel, parce qu'en fait, des modalités de cette rêverie, dans le creuset de la science-fiction, il s'en est produit de toutes sortes et qui, à mon avis, ne sont pas réductibles à une formule unique. Voilà. Donc on peut très bien, aujourd'hui, publier un roman de science-fiction où il y a très peu de science, mais simplement dans le rapport à la logique, dans le rapport à la plausibilité, dans le rapport à l'impression que ça pourrait arriver, même si ça n'a aucune chance d'arriver. On a cette impression très étrange et très spécifique qui est la science-fiction.
J'ai parfois aussi l'impression qu'on va utiliser le fait de se décaler, non pas par rapport au réel qui reste le même, mais dans cette appréhension du réel, un peu comme tout à l'heure on parlait de matière ou d'onde ou d'information, en science-fiction, on s'autorise différents points de vue sur le même objet. Là, je vais peut-être laisser la... Vous allez parler rebondir un peu sur ce qu'on vient de dire, parce que je pense qu'il y a des choses qui ont dû faire écho. Hein.
Oui. Alors, je crois que les lecteurs de science-fiction ont bien de la chance. Parce qu'il existe, en science-fiction et nulle part ailleurs, un texte qui, à mon avis, explique la réalité, explique l'univers. Et c'est un nom bien connu ici, c'est la planète Chaïol. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Igor pour placer l'information au centre de tout, au fond et au centre de tout. Mais quelle information ? Alors moi, je crois profondément qu'il y a une information dominante qui est celle de la douleur, de la souffrance, sous toutes ses formes. Pourquoi ? J'en sais rien. Si je le savais, je serais Dieu ou le diable. Il y a la souffrance et qui est l'infiniment probable, qui est pour moi la réalité, la vérité. Et puis, il y a son antidote. Une information plus floue, plus rare, plus difficile à utiliser, mais enfin que l'homme a appris à manier, c'est le plaisir. Et les humains, les animaux peut-être aussi, probablement aussi, ont appris à manier ces deux informations pour créer vraiment un univers qui est le nôtre, où quand même, et toujours, et malgré tout, c'est la souffrance qui domine, et je crois que la souffrance est la réalité fondamentale.
Alors, d'un côté, il y aurait, du côté de l'imaginaire, le désir, du côté de la réalité, la souffrance. C'est pour vous. Et à un moment, Gérard, vous disiez que aussi la réalité, c'est ce qui dit non. Donc, le réel, c'est ce qui va nous dire non. Donc, est-ce qu'il y aurait comme ça un imaginaire qui serait idéal, qui serait un monde dans lequel tout va bien et qui serait une antidote à la à une à un réel qui, lui, est peut-être un peu plus dur.
L'imaginaire est toujours vaincu par le réel. Et le réel, c'est la souffrance. Alors, l'imaginaire, on sait bien que le bonheur, le plaisir sont extrêmement fugaces. Et la douleur, si on n'arrive pas par toutes sortes d'artifices, mentaux ou physiques ou chimiques ou tout ce qu'on voudra, si on n'arrive pas à la dominer, elle l'emporte toujours. Oui. Donc il ne peut pas y avoir de plaisir, de bonheur, de paradis qui existe longtemps et complètement.
Oui, je voudrais préciser une chose qui va peut-être dans ce sens, c'est que quand je parlais tout à l'heure du côté de l'imaginaire de désir, je voulais parler en même temps de la crainte. Pour le psychologue et pour le psychanalyste, le désir et la crainte sont indissolublement liés. Et c'est quand ce désir se heurte, et cette crainte d'ailleurs se heurte à du réel, que se produit la souffrance dont parlait Michel Jury. Mais je crois que ce qui nous intéresse ici, c'est cet immense espace des réalités, c'est-à-dire des constructions, y compris des fictions, cet immense espace des fictions, dont la science-fiction, et dont aussi la fiction scientifique. Alors, par fiction scientifique, je ne veux pas du tout dire que la science n'est pas une chose sérieuse. Je veux dire que c'est une chose qui est constamment construite. Ce sont des représentations qui sont constamment construites et qui, au contraire des autres fictions, à la différence plutôt des autres fictions, sont soumises à l'épreuve du réel. Alors, le réel laisse passer ou il dit non. Donc là, la représentation scientifique, la fiction, les fictions, la fiction scientifique, est quelque chose de très particulier, de très différent des autres espèces littéraires de fiction, ou pas littéraires d'ailleurs, peuvent être la science-fiction, la fantasy, le fantastique et tout ce que vous voudrez. Il se trouve que la science-fiction a, à cette fiction scientifique, un rapport particulier, même si je souscris volontiers à ce que disait Serge Lehmann, elle a un rapport assez étroit. Alors je pense que ce rapport, si on le généralise comme faisait Serge, il est lié au fait que précisément les sciences nous ont appris que la réalité n'était pas immédiate, qu'on ne peut pas s'en faire une représentation simple. Et c'est ce que s'introduisait tout à l'heure Igor.
Peut-être justement Igor, vous voudriez compléter par rapport à votre vision pour expliquer comment on explique les sciences en utilisant ce passage de l'un à l'autre.
En fait, ce qui me paraît intéressant, c'est d'essayer de préciser justement les notions de réel et d'imaginaire, en tout cas telles que le scientifique va les utiliser. Vous savez que, on en parlait il y a quelques jours au cours d'un dîner avec Gérard à Paris, en fait, il existe deux formes du temps. Il y a le temps réel, celui dans lequel nous vivons, celui qui fait que vous êtes comptable justement de la durée de cette conférence. C'est ce qui fait que les choses se transforment depuis que nous nous sommes assis pour faire cette conférence. J'ai vu que la lumière a baissé, c'est-à-dire en fait le monde évolue, et il évolue dans le temps au travers de quelque chose dont nous faisons évidemment tous l'expérience, qui est l'énergie. Il existe ce qu'on appelle en science une symétrie ou une dualité, si on peut dire, entre le temps et l'énergie. L'un étant la conjuguée de l'autre, ou la transformée de Fourier de l'autre. C'est-à-dire qu'en fait, les physiciens vous le diront, le temps est une autre manifestation de l'énergie, ou en tout cas, on peut le voir comme la transformée ou la variable conjuguée du temps. Et vous allez voir pourquoi je dis cela. Parce que lorsqu'on parle du temps, on parle toujours du temps réel. Mais aux côtés du temps réel, il existe un autre temps, qui est donc, je l'ai dit tout à l'heure, le temps imaginaire, c'est-à-dire en fait un temps qui n'est plus mesuré par les nombres réels, comme celui qui nous permet de dire il est 5h05, 5h15, 5h30, mais par des nombres imaginaires qui ont une caractéristique étrange, c'est que leur carré est toujours négatif, mais ce n'est pas la seule caractéristique, on ne va pas descendre dans le détail, mais le temps imaginaire est quelque chose d'extrêmement... Enfin, pour moi, c'est quelque chose de fondamental dans la compréhension du réel, justement, dont parle Gérard. Pourquoi ? Parce que on ne va pas faire trop de physique ici, mais ce qui est très fascinant, c'est de savoir que si on peut associer le temps réel à de l'énergie, on va associer, et vous allez voir comment, le temps imaginaire de l'information. Pourquoi ? Parce qu'en fait, réfléchissons ensemble. Si l'on considère que il existe une autre symétrie de dualité, ou une autre conjuguée, comme on dit, entre l'entropie et la température. J'en parlais tout à l'heure avec Amélie, je lui disais, voyons, plus la température augmente, est-ce que, en fonction de l'augmentation de la température, est-ce que l'ordre du système augmente ou diminue ? Autrement dit, est-ce que l'information qui nous permet de caractériser un système selon la température va augmenter ou diminuer ? Je crois que d'intuition, si on pose la question, on se dira que plus j'injecte de l'énergie, plus la température augmente, plus. Est-ce que l'agitation augmente ou diminue ? Ceux qui pensent que l'agitation du système augmente, lèvent la main. Donc ça veut dire, en effet, que le désordre augmente, puisque avec l'agitation du système, on a un désordre croissant. Ça veut dire que l'entropie augmente. Autrement dit, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit apparaître ici une symétrie, comme on dit, de dualité, ou une variable conjuguée, comme on voudra, entre l'entropie et la température. Alors maintenant, on va faire un dernier pas de calcul, de raisonnement ensemble. Maintenant, on va prendre ce qu'on appelle en physique l'inverse de la température. L'inverse de la température a une variable conjuguée qui est 1 sur KT, hein, c'est la constante de Boltzmann. On la connaît très très bien en physique. C'est de l'information. Pourquoi ? Parce que si vous avez plus on baisse la température, plus l'ordre augmente. Vous savez que, en effet, entre de l'eau bouillante et un morceau de glace, l'information caractéristique, si on peut dire, d'un morceau de glace est beaucoup plus facile à saisir que celle de l'eau en ébullition. Autrement dit, le désordre est moins important à mesure que la température baisse. Ça veut dire que l'information augmente. Autrement dit, et j'en finis avec ça, autrement dit, ce qui est très intéressant, c'est de se dire que le temps imaginaire, c'est de l'information. Et que quand on parle du temps réel qui est en perpétuelle évolution, quand on parle de la difficulté à saisir la réalité qui nous entoure, pourquoi ? Parce qu'elle évolue en permanence et que donc pour la caractériser, c'est extrêmement difficile puisque nous sommes dans un monde qui est en perpétuelle évolution. Eh bien, pour en saisir précisément la caractéristique, il faut rentrer dans le temps imaginaire. Et le temps imaginaire, c'est tout à fait autre chose. C'est pour prendre une métaphore que nous utilisons souvent pour faire comprendre ce que c'est que le temps imaginaire. Quand vous rentrez chez vous, vous introduisez, parce que vous êtes fatigué, vous avez envie de vous détendre devant un bon film, vous introduisez un DVD dans votre lecteur, vous regardez le film, vous le regardez en temps réel, puisqu'il vous faut évidemment de l'énergie, l'énergie électrique, mécanique, etc., pour voir votre film sur l'écran. Mais en revanche, lorsque le film est terminé, vous appuyez sur la touche éject, vous récupérez votre disque DVD, et là, à l'intérieur du disque DVD, vous avez tout le film, mais non plus en temps réel, mais en temps imaginaire. C'est-à-dire, en fait, toute l'information est gravée dans les sillons du disque DVD. Et là, on est en temps imaginaire. Ce que nous disons, nous, c'est que le temps imaginaire, c'est la réalité ultime, tout simplement. Et qu'en dessous, si finalement, du temps réel dans lequel nous vivons, qui fait que ben voilà, les choses évoluent, nous sommes en voyage, si on peut dire, dans le temps réel, mais la réalité ultime, elle est dans le temps imaginaire, un petit peu comme si nous étions dans un DVD géant, en quelque sorte, et que la réalité ultime, c'est le DVD lui-même, hein, c'est ce qui est en dessous. C'est l'information qui est délivrée par le lecteur dans lequel nous sommes, et nous sommes dans le film.
Alors, est-ce que la réalité ultime est reliée au réel ?
Pardon ?
Est-ce que la réalité ultime est reliée au réel ? Presque.
Non, pour moi, entre réalité, enfin, je souscris largement à ce que vient de dire Igor, mais entre les réalités qui sont, une fois de plus, des représentations et des représentations construites, et le réel, il y a un mur. il n'y a pas de passage, sauf, encore une fois, quand le réel refuse un protocole d'expérience, par exemple, et dit c'est pas comme ça que ça fonctionne. Enfin...
Larry.
Non, il n'y a pas de mur. Il n'y a pas de mur. Dans mon imaginaire, la médecine peut être perfectionnée. En réalité, là, j'ai la preuve que ça n'a pas été. Mais on s'approche de cet idéal. Il y a d'autres idéaux. Par exemple, la communication instantanée. Ça, nous avons. Quasiment, sur la planète. Hein. Mais l'enseignement instantané, ça, c'est un idéal ancien. Et on se rapproche, on s'y rapproche avec les machines. Par exemple, avec les téléphones mobiles. On s'approche à travers l'imaginaire, on s'approche d'une réalité autre. Quelqu'un a dit que l'imagination... Non, je l'avais, je l'ai perdu. Donc l'imagination est opposée à la réalité. Non, c'est notre façon de changer la réalité. C'est un outil pour changer la réalité, pour le faire correspondre à nos désirs. Nous ne voulons pas tous aller explorer Saturne. Mais tous, nous voulons changer, quasiment tous, nous voulons changer et améliorer notre vie. Et ça, pour ça, il faut de l'imagination. Saturne imaginaire. Saturne pour de vrai, c'est beaucoup plus fantastique qu'une sorte de Saturne imaginaire. Et c'était l'imagination que ceux qui ont fait des sondes pour aller chercher, pour aller voir et pouvoir regarder le monde sans outils. Ça, c'est la science au travail. Et c'est la science et avec l'imagination.
Alors, parfois on parle d'imagination, parfois d'imaginaire. C'est pas tout à fait les mêmes choses. Et En vous écoutant, on aurait envie de se dire l'imaginaire va changer nos réalités. Chacun peut avoir une réalité liée à son imaginaire, à sa façon de représenter. Et les sciences ont changé fortement notre façon de nous représenter le monde. Donc, ont changé notre réalité.
Profondément, oui, tout à fait. Enfin, les sciences ont non seulement changé nos réalités, alors avec cette réalité commune aux scientifiques, enfin à l'intérieur de chaque discipline, parce que c'est la constitution d'une réalité commune qui me paraît importante dans la science, ça a changé, non seulement ça a changé complètement nos représentations du monde, disons, et donc ça a changé nos réalités, mais ça a changé notre relation aux représentations du monde. Et ça, c'est peut-être encore plus profond et plus important. J'aimerais avoir là-dessus le sentiment de mon collègue philosophe.
Je suis partagé, en fait, sur cette question. Je suis tout à fait d'accord pour dire que la science, au cours des 150 dernières années, a réellement bouleversé nos représentations du monde. C'est-à-dire qu'elle a opéré des transferts d'affect d'un objet sur d'autres. Elle nous a fait voir le ciel autrement, par exemple. Elle nous a fait voir l'idée du hasard autrement, ou l'idée de la prédestination. Donc, ce sont des entités théoriques qui... Certaines avaient une très grande importance autrefois, elles sont devenues négligeables aujourd'hui. D'autres qui ne jouaient presque aucun rôle dans la vie sociale sont devenues prépondérantes. Mais moi, intuitivement, et pas du tout rationnellement, pas de manière articulée, j'ai tendance à penser que... Je pense que ce qui est étrange avec la science et l'ensemble des représentations et des images involontaires qu'elle produit, parce qu'en fait, la science... C'est pas juste une pratique de laboratoire ou une activité intellectuelle, hypothétique ou déductive, parfaitement organisée et rationnelle. D'abord, même cette activité, des gens comme Latour ont montré qu'elle était sujette à des enjeux humains, très humains, trop humains, que la vie de laboratoire n'était pas particulièrement engagée dans la poursuite de la vérité, mais qu'elle faisait aussi le lieu de rivalité, de lutte de pouvoir, et que toutes ces opérations et ces enjeux pouvaient affecter les résultats. Donc c'est une activité humaine, la science, hein, c'est un effort. C'est pas une entité absolue et parfaite qui plane au-dessus de nous, c'est nous qui la faisons. Donc il y a cette cette fragilité, disons, de l'activité scientifique. Mais il y a aussi, dans l'immense cortège d'images, de représentations qu'elle suscite, pour prendre qu'un seul exemple, au début du XXe siècle, pendant 30 ou 40 ans, je ne sais plus quelle est la date, la durée de cette affaire, on a cru à un découpage de la paléontologie qui impliquait l'homme de Piltdown, voilà, qui était un faux fossile qui avait été fabriqué par deux archéologues anglais, je crois, pour prouver leur théorie. Faux fossile fabriqué à partir de crânes assemblés pour l'occasion, un peu retravaillés, etc. Et pendant 30 ou 40 ans, les découpages de la paléontologie devaient faire une place à ce fossile fabriqué de toutes pièces. Donc pendant 30 ou 40 ans, des gens qui étaient à la pointe de leur discipline scientifique à une époque ont vécu dans un monde de relations et de représentations faux, construit comme une fiction, et organisé de manière à rendre compte d'une fiction, en fait, d'une fiction scientifique, d'un canular scientifique. Donc il n'est pas du tout dit que notre époque ne soit pas aussi le lieu où on croit à des objets théoriques faux, délibérés ou par erreur, ou suite à nos méconnaissances. Donc on vit dans un monde assez largement en cours de contrôle, et les contrôles qui vont rendre leur verdict donneront lieu à de nouveaux contrôles ultérieurs. La caractéristique paradoxale de la science, selon Popper, c'est qu'elle ne peut se dire scientifique qu'en tant qu'elle est falsifiable, qu'en tant qu'on peut dire ceci est faux.
Falsifiable, réfutable, hein, très, oui. Réfutable. Même le grand Popper considérait que le terme de réfutable était préférable à celui de falsifiable, qui est une mauvaise traduction de l'allemand. Il ne faut pas oublier que, bon. Enfin, je crois que la question n'est pas fondamentale dans la joie. Donner un exemple emprunté à la vieille science-fiction. Bon, nous partageons tous quelque chose qui est la réalité empirique. Cette table est dure. Ça, là-dessus, je crois que nous pouvons à peu près tous être d'accord. Cela étant, ce que la science de la fin du siècle dernier et du début du siècle nous a appris, c'est que l'essentiel de cette table est composé de vide entre les atomes et à l'intérieur même des atomes. Et au début, dans les années 20, un écrivain américain de science-fiction, Ray Cummings, s'est servi de cette idée pour imaginer une plongée dans ce vide qui permet d'atteindre un monde atomique. Il utilisait la métaphore planétaire de l'atome, dont nous savons qu'elle n'est pas du tout fondée. Bon, c'est une fiction imaginaire. Mais si elle m'intéresse ici, c'est parce qu'elle rend bien compte du changement complet de représentation qui s'est opéré à ce moment-là grâce à un travail scientifique. Bon, la réalité empirique s'est effacée derrière une autre réalité qui, à sa manière, est également empirique, celle de la science, où il y a beaucoup plus de vide dans une table dure qu'il n'y a de matière ou d'énergie ou même d'information.
Michel, je ressens la chose un peu comme Larry Niven. Je crois que l'imagination créatrice est une arme puissante contre la dureté, la cruauté du monde. Et sans l'imaginaire, j'ai souvent pensé, et je crois profondément, que la vie ne vaudrait pas d'être vécue. Certes, il y a aussi les tranquillisants et le paracétamol, mais enfin, l'imagination plus la chimie, c'est quand même pas mal. Et maintenant, je voudrais poser une question à Igor. Donc, il y a, je le crois aussi, hein, au fond de tout, il y a l'information. Mais quelle information ? Alors, moi, j'ai tendance à croire que l'information dominante, pour une raison ou pour une autre, c'est la souffrance. Alors, que faut-il en penser ?
Écoute, je ne sais pas si ça marche, oui, ça marche. Non, mon cher Michel, je comprends en effet ton point de vue, qui est un point de vue presque de philosophe, au fond, hein, sur la réalité du monde, et qui est évidemment une expérience que tu vis tous les jours, qui est peut-être celle de réduire donc l'information à de la souffrance. Moi, je serais peut-être moins tenté que toi d'aller vers cette représentation du monde, et en tout cas pour moi l'information qui est qui est par exemple à l'origine de cette table ou des sièges sur lesquels nous sommes assis, c'est une information qui est vraiment physique, qui n'a pas d'état d'âme et qui est indépendante, si on peut dire, de... si tu cognes sur la table, en effet, tu vas te faire mal. Mais l'information, ça c'est... Tu sais, tu as entendu parler il y a quelques années, Stephen Hawking, donc ce fameux physicien anglais, a fait un pari en disant que les trous noirs, qui comme vous le savez sont des objets très énigmatiques qui ont la caractéristique d'absorber toute la matière qui les environne, et il s'est simplement posé cette question, mais si ces trous noirs sont tellement voraces, où va donc la matière et que devient l'information qui constitue la matière de ces objets, des étoiles et même des troupeaux d'étoiles qui sont avalés par ces trous noirs géants. Et pendant très longtemps, Stephen Hawking était persuadé que l'information ne survivait pas au passage dans le cœur du trou noir et que l'information était perdue. Il a réfléchi pendant très longtemps sur une autre caractéristique des trous noirs qui est leur évaporation, parce qu'au bout d'un temps très très long, le trou noir lui-même finit par s'évaporer. Et à ce moment-là, une question nouvelle est apparue chez Hawking en disant, mais si le trou noir s'évapore, est-ce que tout de même on ne peut pas considérer que l'information qui est constituée par les objets, un chat est constitué par une information, de même titre que votre téléphone portable, c'est de l'information, on peut le réduire de l'information tout ça. Est-ce que cette information, oui ou non, survit? Eh bien, il y a donc, c'était en 2007, finalement, donc, Stephen Hawking dit « Je me suis trompé, car après avoir pendant 20 ans pensé que l'information ne pouvait pas survivre à l'évaporation du trou noir, eh bien aujourd'hui, je montre, et il a donc établi un certain nombre de pas de calcul autour de cette idée nouvelle, je montre que l'information survit. Autrement dit, si l'information survit, ben ça veut dire que les objets physiques que représentent cette table, ces chaises, ces micros, etc., ces objets physiques, finalement, survivent à la disparition, entre guillemets, ou leur absorption au cœur du trou noir. Bon, j'irai pas plus loin dans la métaphore, mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que l'information, elle, de mon point de vue, n'a pas d'état d'âme, elle est indépendante, si on peut dire, de ce que nous projetons, de ce que nous vivons à partir d'elle. Pour revenir, alors juste cette histoire de DVD que j'ai employée tout à l'heure, et vous avez tous entendu parler, vous avez tous vu « Autant l'emporte le vent », qui était le premier film d'ailleurs en couleur en 1931. Vous souvenez de cette scène où Red Butler va embrasser Scarlett O'Hara. Hein, c'est une scène mythique et on la voit d'ailleurs sous les affiches du film. Imaginez maintenant que Scarlett O'Hara, tout à coup, comme ça, se pose la question de savoir, au moment où vous regardez le film, vous êtes devant votre écran, vous avez mis le DVD dans le lecteur, vous regardez le film, et puis tout d'un coup, imaginez que Scarlett O'Hara se pose la question, mais qu'est-ce que la réalité? Dans un instant, elle va être embrassée par Red Butler, mais tout d'un coup, elle se pose une question philosophique sur sa réalité à elle, la réalité du monde qui l'entoure, la réalité du salon dans lequel elle est. Est-ce qu'elle pourrait imaginer un seul instant que la réalité qui est la sienne, qui est celle de Red Butler, qui est celle du salon dans lequel elle vit, se réduit à une série de trous, c'est-à-dire en fait à de 0 et de 1, dans le silicium d'un disque qui est en train de tourner dans un lecteur quelque part, d'un DVD, quelque part en France ou ailleurs. Pour elle, c'est inimaginable. Elle n'est pas, si elle a conscience de ce qu'elle est au moment où elle se pose la question, elle n'est pas réductible à une série d'impulsions de 0 et de 1 qui lui donnent le sentiment du réel. Mais nous sommes dans la même situation. Il existe un gouffre absolument immense, probablement infranchissable, qui faisait dire à un physicien que la réalité est voilée et qu'elle est probablement destinée, le réel, il disait, le réel est voilé et probablement destiné à rester voilé. Parce que le gouffre qui nous sépare du réel est aussi grand que celui qui sépare Scarlett O'Hara au moment où elle se pose la question de savoir qui elle est, de la réalité du disque DVD qui lui donne l'illusion de la réalité dans laquelle elle est plongée.
En sachant que Scarlett O'Hara, au départ, elle était des connexions de synapses dans la tête de celui qui a écrit.
Tout à fait.
Et moi, je voulais suite à l'intervention d'Igor, mais je voulais plutôt aller dans le sens de Michel. C'est-à-dire, je ne sais pas si on peut dire que l'information fondamentale, c'est la souffrance, mais on a quand même, quand on parle réel, réalité, imaginaire, on a quand même une épistémologie à choisir. C'est-à-dire, la question est quand même... La démarche classique de la science, la démarche donc du positivisme de la science jusqu'au XIXe siècle, a été de décrire le monde comme si l'homme n'y était pas. Elle consiste à décrire le monde comme un ensemble d'objets matériels qu'on réduit en éléments et en composants de plus en plus petits, en espérant trouver les 3-4 composantes de base et les règles de fonctionnement de ces composants, leurs interactions, qui permettront en 2 ou 3 équations de décrire l'ensemble des objets possibles du monde. Voilà. Et donc l'homme est exclu de cette démarche. L'homme, sa subjectivité, sa souffrance n'ont pas de place dans cette démarche. Donc en ce sens, effectivement, dans cette approche, on peut dire que cette table n'est pas une entité morale. Il n'y a pas de fonction douleur dans cette table. Il y a de la matière, du vide, des interactions. La grande révolution du XXe siècle, ça a été quand même de nous faire toucher du doigt les limites de cette démarche et de nous obliger, soit à réintégrer la subjectivité de l'homme dans l'opération de mesure, auquel cas on peut très bien, comme Michel le dit, trouver que le réel ultime du monde auquel nous avons accès, c'est la mort, c'est la souffrance, c'est l'angoisse, c'est les choses auxquelles on va être confronté. Après tout, Heidegger dit par exemple que la condition humaine, c'est l'angoisse. Voilà. Est-ce qu'il y a une vraie grande différence entre la philosophie et la philosophie scientifique? On n'en sait rien. Ou alors, si on décide de ne pas réintégrer la subjectivité de l'homme dans la mesure, à ce moment-là, il faut clairement dire que le problème de la réalité n'est pas un problème scientifique. Donc dans les deux cas, la question de la souffrance comme réalité ultime de l'homme se pose tout à fait, même quand on a des démarches de physique de pointe.
Oui, je voudrais d'abord, en faisant écho à ce que disait Igor, rappeler qu'un des principes les plus fondamentaux de la physique quantique, c'est que l'information ne peut pas être détruite. Elle peut changer, mais elle ne peut pas être détruite. Alors, je m'inscrirai un peu en faux contre ce que disait précédemment Serge. Nos représentations scientifiques successives du monde ne sont pas fausses. Ce sont des modèles qui se succèdent les uns aux autres, et qui peuvent être d'ailleurs extrêmement différents. Ça me paraît être également une erreur que de parler de modèles qui s'affineraient, et que par exemple passer du modèle de Newton à celui d'Einstein, ça serait un affinement. En réalité, c'est une révolution. Mais ce sont des modèles successifs dont on ne peut dire d'aucun, à proprement parler, qu'il est faux, parce que la question du vrai et du faux, et je vois que tu opines fortement, et est vraiment une toute autre question qui, à la limite, mais c'est une autre affaire philosophique, n'a pas de sens et n'est pas très intéressante. Donc, nous produisons des modèles qui s'appliquent à des réalités empiriques qui évoluent en fonction des instruments de mesure dont nous disposons.
Bien, donc on voit bien les implications directes des avancées scientifiques pour changer notre perception de la réalité, en particulier le XXe siècle a été terrible. Hein. On nous a appris à remettre en cause en permanence nos réalités. Je pense que ça, c'est une chose sur laquelle on est tous d'accord. On était obligés d'apprendre à vivre avec une réalité en perpétuel mouvement. Ça a été sans doute la grande nouveauté du XXe siècle. Et du coup, aujourd'hui, enfin, on a vu que la science-fiction s'est pas mal développée, même s'il y a eu des périodes où c'était un peu plus calme et autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas un vrai enjeu de société à préserver un imaginaire riche pour accepter les mutations, pour être prêt à vivre dans ce monde dont les réalités sont changeantes?
Juste une remarque, je ne sais pas si c'est ma réponse définitive à votre question, mais je ne pense pas qu'il faille assigner à l'imaginaire des missions particulières.
D'accord. Okay.
Imaginaire pour faire quelque chose me paraît être une contradiction.
Ou alors un besoin,
je pense que ce que j'aimerais rajouter, c'est que finalement Gérard a absolument raison. Lorsqu'il parle de modèle, et il a comme toujours, mais lorsqu'il parle de modèle, il parle finalement d'approximation du réel. On ne fait qu'approximer la réalité ou le réel, comme on voudra, bien qu'il y ait une distinction entre les deux, mais en effet, nous vivons comment dire, nous vivons le monde au travers des tentatives d'approximation de nos représentations sur le monde. Donc c'est quand même quelque chose d'extraordinairement compliqué, c'est un processus difficile, et il faut évidemment rendre hommage à l'esprit humain, sachant qu'aujourd'hui, on vient de découvrir, c'est pas très très ancien ça, que nous ne connaissons du monde et du réel profond que seulement 4%, c'est-à-dire que nous pouvons observer à peu près 4% du réel qui nous entoure. 96% de ce réel nous échappe. Il y a là-dedans 26% de matière noire, on ne sait pas trop ce que c'est, hein, c'est 26% de matière noire, on parle de matière noire, vous en avez tous entendu parler, mais on ne sait pas vraiment ce que c'est, puisqu'on n'a pas réussi encore aujourd'hui à observer la matière noire. Et il y a encore quelque chose d'encore beaucoup plus mystérieux, qui est la fameuse énergie noire. 73% du contenu énergie-matière de l'univers est constitué par de l'énergie noire, dont on ne sait absolument rien, sauf qu'elle accélère, on en perçoit l'existence au travers d'un effet qu'on a mesuré en 2001, qui est l'accélération de l'expansion, du taux d'expansion, qui dépasse bien entendu toutes les prédictions qui avaient été faites par ce qu'on a appelé la constante de Hubble. Donc c'est quand même extraordinaire de se dire qu'on ne connaît pour l'instant que 4%, on ne peut observer que 4% du réel qui nous entoure. Ça veut dire que 96% s'est livré à des approximations sur ce réel-là, qui est quand même infiniment mystérieux.
Quelqu'un veut...
Oui. Il y a l'imaginaire aussi. Ça peut être aussi quelque chose d'imaginaire, la matière noire. On ne l'a pas trouvée, apparemment. C'est là parce qu'il y a une divergence dans nos équations. À changer d'équation, vous allez peut-être trouver que la matière noire, en fait, c'était aussi imaginaire que le Pluton qu'ils cherchaient quand ils ont trouvé autre chose. Pluton s'était retrouvé par des astronomes qui avaient des mauvaises équations. Et Pluton ils ont trouvé parce qu'il y a tellement de choses que finalement il y avait quelque chose qui est arrivé devant leurs yeux, tout simplement. La matière noire, on peut y croire si on veut, mais actuellement c'est quelque chose d'imaginaire. Même si vous avez des choses pour soutenir la thèse, mais vous n'avez rien pour le prouver.
Oui, mais l'imagination qui est suscitée par la matière noire est une imagination que je dirais extrêmement pauvre, parce que on ne sait pas du tout, il n'y a aucun modèle qui permet aujourd'hui de dire ce que c'est. Donc, on constate de manière tout à fait induite l'existence de ces 26% de matière noire, mais on ne sait pas ce que c'est. Et on sait encore moins ce que c'est que l'énergie noire. Parce que l'énergie noire, c'est quand même un truc qui est encore plus mystérieux pour moi que la matière noire. On va parler d'un champ scalaire qui va accélérer l'expansion de l'espace-temps. Mais ce champ scalaire, quelle en est son origine ? Quelle est l'interaction entre ce champ scalaire et le contenu matière-énergie de l'univers ? On n'en sait rien du tout. Donc, en effet, de ce point de vue-là, je pense que l'imaginaire... Des hommes de science qui s'interrogent sur la réalité de ces entités mystérieuses qu'on appelle matière noire, énergie noire, est certainement encore très 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 loin en dessous de la réalité ultime de ces deux grands mystères de l'univers, dans mon point de vue.
Oui, je vais revenir un peu en arrière, c'est la difficulté dans ce genre de débat. Si vous avez aimé les révolutions scientifiques du XXe siècle, les révolutions dans la représentation du monde, vous adorerez le XXIe siècle, parce que comme le faisait remarquer Igor, ça ne fait que commencer. Et pour moi, en tant qu'auteur, et surtout peut-être en tant qu'éditeur, une des fonctions, et je parle bien de fonctions importantes de la science-fiction, c'est d'ouvrir l'esprit à ces révolutions. Il ne s'agit pas véritablement de les décrire, enfin, c'est le travail des scientifiques et des présentateurs d'émissions scientifiques, il y en a au moins dans ce panel, mais c'est d'ouvrir les esprits à ces mutations. Alors qu'il s'agisse de physique, ou qu'il s'agisse de discipline, on n'en a peut-être pas assez parlé ici, mais on en a parlé ailleurs, la biologie, enfin, tout ce qui tourne autour, mais c'est cette ouverture. Alors, il y a quelque chose que je déplore, et j'aimerais avoir là-dessus la réaction de M. Niven, c'est, à mon avis, un reflux de l'intérêt pour la science-fiction et en particulier pour ses mutations. Ce n'est pas un reflux depuis la semaine dernière, mais sur les 10 ou 15 dernières années. Alors, si bien cette ouverture vers l'imaginaire à des mutations me paraît sérieusement bousculée par les univers de fantasy qui ne portent pas cette ouverture.
Alors, juste avant de passer la parole, pour revenir sur la fonction de, enfin, fonction de la science-fiction, je pensais aussi au rôle de l'art et de l'imaginaire. Par exemple, Niels Bohr, qui a mis en place la théorie quantique, avait un tableau cubiste et il adorait le cubisme. Et pour ouvrir l'esprit, avant d'accepter une nouvelle réalité, avoir un esprit préparé est important. On passe à vous, Larry, pour répondre à Gérard. Le reflet de la science-fiction.
La science-fiction est la seule forme de réflexion qui vous dit que l'actuel change. Avant, les gens supposaient que le change allait continuer tel quel pour toujours. Mais la science-fiction postule les changements. Nous, on grandit tout en sachant qu'il y a des changements. Et les changements s'accélèrent. On ne voit pas autant de changements qu'on pensait. Les historiens peuvent toujours dire qu'il y a une armée qui arrive, qui change tout. Mais nous, on est entourés des téléphones portables, par exemple. On ne peut pas écrire une histoire sans où les gens ne savent pas les choses. Donc il faut postuler quelque chose du genre des téléphones portables qui ne fonctionnent plus. Donc vous pouvez avoir des changements dans une histoire parce que vous savez que c'est vrai. Les changements sont peut-être bêtes dans une histoire, mais vous avez vu des changements ridicules dans la réalité. Là, notre imaginaire est vraiment accessible maintenant, donc on trouve que c'est plus facile de voir des possibilités. Ça y est, c'est tout pour moi.
Voilà, on a peut-être le temps pour une petite question, parce que c'est vrai qu'avec autant d'intervenants, c'était dur de faire plus court. Ou si vous avez une phrase de conclusion. Michel,
je voudrais revenir une minute sur les données immédiates de la conscience. Est-ce qu'il y a, je m'adresse à Serge, son philosophe, est-ce qu'il y a des données immédiates de la conscience? Quand j'ai très mal, je considère que c'est une donnée immédiate de ma conscience. Pour le plaisir, je suis moins sûr, et pour le reste, absolument pas.
Quelqu'un veut poser une petite question? Ou sinon, on peut se retourner. Oui.
Juste pour citer cette limite entre la réalité et l'imaginaire, moi je me réfère toujours aux mêmes critères sur la séparation entre l'imaginaire et le réel. Et le pseudo-réel, le perçu, c'est la préface de Cromwell de Victor Hugo. J'estime que, à la limite, elle explique pourquoi la science-fiction est plus réaliste que le roman ordinaire.
Pour appréhender la réalité. Merci à tous.
Pour situer comme ça cette rencontre sous le signe de la science, enfin on pourrait la conclusion, moi j'ai envie de citer quelqu'un qu'on cite souvent parce que c'est quelqu'un dont on a parlé il y a un instant, c'est Einstein, qui dit finalement, il a dit en 1929 quand il a rencontré pour la première fois Edwin Hubble et qui lui a montré que l'univers n'était pas fixe et qu'il était en expansion, finalement il a dit: ce qui compte le plus en science, ce n'est pas l'ensemble des connaissances, c'est l'imagination. Et donc, de ce point de vue-là, enfin, moi, je suis évidemment éminemment d'accord avec Einstein, éminemment d'accord avec Larry Niven, de ce point de vue-là. Je crois que l'imagination, c'est elle qui gouverne le monde.
Terminé par Einstein, voilà qui est très bien. Merci. Thank you.